France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour, bienvenue dans les Ardennes, avec un étonnant musée pour la qualité des pièces exposées, sa nouvelle scénographie qui habille ce musée Guerre et Paix à Novion-Porcien, où nous allons nous rendre dans un court instant. Ensuite, nous serons avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, dont le numéro d'automne est dans les kiosques depuis peu, et à l'intérieur de ce numéro, un dossier sur l'élan nouveau de la biodynamie en France, adopté par les agriculteurs, sylviculteurs, viticulteurs, qui nous a bien intéressé car ils mettent à mal quelques critiques régulières de cette méthode jugée parfois douteuse, voire obscure.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Marie-France Devouche, bonjour.
Bonjour.
Marie-France, vous dirigez un musée rare qui s'appelle le musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcien. Je dis rare parce qu'il est tout neuf, tout recomposé, tout reconditionné. Il couvre 75 ans d'histoire et 3 conflits.
Oui, tout à fait. C'est la particularité du musée puisque nous présentons ici 3 conflits. La guerre de 1870 et les 2 guerres mondiales.
Oui.
Donc c'est effectivement un temps historique assez long. Puisqu'on démarre en 1852 avec l'avènement de Napoléon III en France et on termine en 1945 avec la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Mmh.
C'est un musée de presque 4000 mètres carrés, donc qui est réparti en 3 espaces, 18 salles, un parcours chronologique et nous sommes une propriété départementale.
Alors, pour 1914-1939, on imagine facilement les supports, les documents et les éléments d'archives. Pour 1870, c'est plus difficile.
Les collections sont effectivement beaucoup plus rares. On a quand même une très très belle collection d'uniformes pour les armées françaises et les armées allemandes. Et ce qui est intéressant pour cette période, c'est qu'on est vraiment dans la belle époque des uniformes, avec beaucoup de couleurs, des uniformes de prestige, des coiffures très hautes, très particulières. Mais vous avez tout à fait raison, ce sont des objets qui sont plus rares à trouver.
Mmh. Il y a aussi une particularité, ça c'est le propre des musées vivants. C'est-à-dire que on a une grande thématique, mais on a aussi un espace d'exposition temporaire. C'est votre cas. Est-ce que cet espace est une manière de faire revenir un public qui a déjà visité le musée Guerre et Paix?
C'est tout à fait ça. Donc c'est aussi l'occasion de développer une thématique qui n'est abordée que de façon très superficielle au sein du musée.
Mmh.
Donc, pour cette année, ça va être une exposition un peu particulière, sous la forme d'un escape game géant, donc d'un jeu. L'an prochain, c'est une grosse année de commémoration, puisqu'on va célébrer à la fois le 150e anniversaire de la guerre de 1870,
oui.
Le 80e anniversaire de la campagne de France et de l'exode des Français et des Belges.
Mmh.
Et donc nous allons bien évidemment consacrer une grosse exposition à la guerre de 1870 et nous aurons aussi d'autres expositions sur la campagne de France en 1940. Mmh.
La collection est importante, plus de 14 000 objets répartis dans 6 grands ensembles, 50 engins lourds, des conflits mondiaux, des uniformes, des coiffes, des armes, évidemment des ouvrages et des revues. Mais est-ce que le numérique modifie la donne, l'organisation d'un musée? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un support de transmission et de communication pour vous?
Au sein d'un musée, l'objet reste l'objet. C'est-à-dire un témoin d'une période, un témoin d'un événement. Après, on a quand même des supports audiovisuels. On a un film très particulier justement sur la bataille de Sedan, qui est reconstitué en images de synthèse et en vue aérienne. On a aussi un film inspiré du monde de la bande dessinée. On a comme ça différents dispositifs, en plus de décors grandeur nature et de mise en ambiance, parce qu'on a voulu vraiment que le musée soit immersif.
Alors, c'est un musée guerre et paix, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un espace conclusif en fin de parcours qui pose la question de l'héritage des conflits aujourd'hui. Et c'est une manière aussi de prolonger le débat et d'entrer dans une démarche que vous dites à juste titre citoyenne.
Complètement. L'objectif, j'ai envie de dire premier du musée, c'est de donner une leçon d'histoire à nos visiteurs pour leur permettre de réfléchir sur ces notions de guerre et paix aujourd'hui. On a mis en scène sous la forme d'une grande fresque l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée après la guerre de 1939-1945, donc en 1948, qui rappelle les valeurs fondamentales du vivre ensemble. La dignité, la liberté, l'égalité, toutes ces valeurs qui ont été bafouées par la guerre.
Mmh.
Et donc c'était important justement, après avoir vu toutes les conséquences des guerres, eh bien, pouvoir se questionner. Donc voilà, on a voulu vraiment un espace qui fonctionne assez bien auprès de nos visiteurs, puisque en sortant du musée, eh bien, ils se disent qu'on a la chance aujourd'hui de vivre en paix. C'est très important auprès des jeunes générations, puisqu'on a un service éducatif avec un professeur détaché par l'éducation nationale. Et donc, c'est aussi important pour les scolaires d'être en lien avec les programmes d'histoire, mais aussi d'être dans une démarche citoyenne.
Et au terme d'une première année d'exploitation, 2018, vous avez été satisfaite par le nombre de visiteurs accueillis ?
Oui, tout à fait. Ça a été une belle année, un beau succès. On était encore dans une année de commémoration. Donc, nous sommes satisfaits de notre fréquentation et aussi des premiers retours de nos visiteurs. Nos visiteurs sont contents de leur visite. Il faut quand même savoir que pour visiter le musée, il faut compter à peu près 2 heures. On peut faire une pause pendant la visite. On peut aussi déjeuner puisqu'on propose des produits locaux. On peut passer la journée au musée sans problème et passer un bon moment.
Ça s'appelle Guerre et Paix. Le site, c'est guerreetpaix.fr. Allez le voir parce que vous allez trouver des images. Vous pourrez faire déjà une première visite virtuelle en partie de ce musée unique en Europe. Merci Marie-France.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Je suis pris aujourd'hui entre deux propositions et pour ainsi dire entre deux feux. En effet, nous avons reçu des courriers d'un côté de l'association On Pousse et de l'autre du collectif de la Marcasserie. Or, les deux ont pour objectif l'ouverture de magasins d'alimentation de proximité. Le premier, un magasin du réseau Biocop à Charleville-Mézières. Et pour le second, une épicerie labo de produits locaux sous forme de magasins d'alimentation coopératif et participatif. Alors, il y a quand même une petite différence entre les deux. À savoir, le futur Biocop fonctionnera en SIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif, regroupant en son sein les producteurs, les consommateurs, les salariés, les partenaires, alors que la Marcasserie sera en gestion partagée entre les membres de la coopérative, soit des particuliers, qui donnent du temps au fonctionnement de l'épicerie en échange d'un accès privilégié aux produits mis en rayon. Or, il est évident que l'émergence des deux initiatives prises par les consommateurs correspondent à la volonté de plus en plus répandue, de contrôler son alimentation et de ne plus être soumis à la loi des enseignes de la grande distribution. D'ailleurs, les sites des deux collectifs relaient le même dossier réalisé par France Inter sur la prise d'intérêt réalisée par les grandes enseignes sur les produits bio. Entre parenthèses, je rappelle que fruits et légumes bio sont plus chers en moyenne de 19% dans la grande distribution que dans les épiceries spécialisées. C'est pas moi qui le dis, c'est le dossier. Nos correspondants de la Marcasserie commentent le dossier de notre rédaction par ces mots, deux pigeons dans l'affaire, le consommateur et le producteur. Comme les deux démarches sont aussi louables l'une que l'autre, je vous laisse rejoindre celle qui vous semble le plus proche de vos attentes, marcasserie.org, qui, entre parenthèses aussi, cherche un local à Charleville-Mézières. Et puis le projet On Pousse, il y a une page Facebook qui attend également vos dons. Avec nous en duplex, Sylvie Le Calvet. Sylvie, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village. Le numéro d'automne vient de paraître, merci, je l'ai sous la main. C'est le numéro 141. Je signale qu'il y a toujours des annonces. On nous demande souvent, mais dites donc, il n'y aurait pas des affaires à reprendre. Ben là, il y en a une trentaine dans le dernier volume de la revue. Il y a plusieurs dossiers. Aujourd'hui, on commence par la biodynamie. Je sais que ça va faire réagir beaucoup de monde. Vous l'avez titré, ils ont choisi la biodynamie. Et à mon grand étonnement, ils sont de plus en plus nombreux, maraîchers, même céréaliers, viticulteurs, à utiliser ce principe. On dit 1200 à 1500 exploitants biodynamie en France.
Oui, il y a deux organismes qui certifient ce qu'est la biodynamie. Alors la biodynamie, c'est quoi quand même en résumé? Alors c'est une forme de culture qui a été imaginée par Rudolf Steiner dans les années 20 et qui va plus loin que l'agriculture biologique. Donc c'est de l'agriculture biologique, mais où en même temps on prend en compte le sol, l'air, l'eau, le climat, bref tout l'écosystème, et où le cahier des charges est beaucoup plus difficile que sur l'agriculture biologique, beaucoup plus contraignant. Les Allemands s'y sont mis en premier, sont très demandeurs de produits agricole, alimentaire, issu de la biodynamie. Et c'est vrai qu'on compte entre 1200 et 1500 exploitations en France qui sont contrôlées par deux organismes certificateurs, notamment Demeter, hein, qui est le principal organisme, qui compte 850 adhérents.
Ouais. Le deuxième, c'est Biodivin.
Tout à fait, plutôt sur la viticulture, comme son nom l'indique.
D'ailleurs, c'est mal tombé, biodivin, parce que divin, on va vers le spirituel et on retombe sur Rudolf Steiner, donc le créateur de la biodynamie, qui a créé aussi un mouvement de théosophie, anthroposophie, enfin, bref, ce qui a valu des dérives sectaires, surtout dans le mode éducatif, mais pas uniquement. Et à chaque fois qu'on parle de biodynamie, on nous rapporte Steiner dans les dents, si je peux me permettre l'expression, avec comment vous pouvez mettre en avant ce pionnier du sectarisme.
Oui, c'est vrai, c'est toute la difficulté. Et néanmoins, on voit bien qu'il y a une volonté des consommateurs d'avoir des produits dont les qualités gustatives, le terroir est bien défini, le mode de production, le respect du bien-être animal. Et il y avait aussi tout ça dans la biodynamie. Et donc, c'est une demande de la clientèle qui augmente, hein, encore plus que pour les produits bio, puisque la progression, c'était 15 à 20% sur la biodynamie, quand c'était 14, c'est déjà énorme, hein, d'augmentation sur l'agriculture biologique. Donc, c'est vrai qu'il y a, ça répond à une demande aujourd'hui des consommateurs, et puis les agriculteurs qui ont besoin de faire de la valeur ajoutée et de s'en sortir et qui se disent il faut un mode de, maintenant agricole plus durable pour beaucoup d'entre eux, trouvent à travers la biodynamie une opportunité de nouveaux marchés.
Vous donnez l'exemple parmi d'autres, Sylvie, dans ce numéro du magazine Village, David Maraîcher à Bellegarde, dans le Gard, adhérent de Déméter, donc un des 850 adhérents, comme vous le signalez. Et il précise, en plantant mes salades à des périodes précises, le rendement s'améliore de 10%.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, lui, il était un peu dubitatif, non pas sur la fumure naturelle, non pas sur ne pas mettre de pesticides, puisque là, il y a adhéré volontiers. D'ailleurs, pour être en biodynamie, il faut préciser, on est forcément en agriculture biologique. Ça, oui. Ça va au-delà, mais si on n'est pas bio, on peut pas devenir agriculteur en biodynamie. Et puis, il disait, oh, l'impact du cosmos, et notamment de la Lune, dont on a beaucoup parlé, j'y crois pas trop, mais enfin, je vais faire un peu ce qu'on me dit quand même, je vais planter mes salades à une certaine période, et il a vu que ça avait un réel impact. Alors, les explications scientifiques, on les a pas, mais en tout cas, même sur cet aspect-là, sur le lien avec le cosmos, en tout cas, il dit, c'est sa citation, hein, mes salades, en les plantant à ce moment précis, elles ont un rendement de plus de 10%, ce qui est quand même incroyable.
Oui. Alors, ça commence à prendre tellement qu'en dehors des arboriculteurs qu'on trouve aussi en biodynamie, il y a même des céréaliers, vous citez une ferme du Gers de 1000 hectares qui passe en biodynamie, et vous le disiez rapidement, Sylvie, le cahier des charges est beaucoup plus sévère que sur la production biologique. Par exemple, en bio, des additifs sont permis, ce n'est plus du tout possible, envisageable en biodynamie.
Oui, ça, c'est quand même un sacré pari, hein, et que des grands... Alors, Souvent, ce sont de petites exploitations et qui, justement, parce qu'ils font de la valeur ajoutée, peuvent se permettre de garder des petites surfaces. Mais quand on voit des céréaliers de 1000 hectares qui s'y mettent ou des agriculteurs qui font de l'élevage, hein, puisque l'élevage, c'est, on le voit dans le dossier qui a été mené par notre collaborateur Philippe Bourget, comme des agriculteurs qui maintenant, sur des exploitations qui font de l'aubrac, donc de la vache, voire d'autres animaux, se lancer en biodynamie, ça paraît incroyable. Et ça veut dire que si ça continue de faire des petits comme ça, c'est beaucoup, beaucoup de surfaces qui sont concernées. Alors, la viticulture, on en a parlé, mais aujourd'hui, tous les grands crus qui veulent fournir des bonnes adresses de restaurants se mettent à la biodynamie, quoi. Hein. Les plus grands noms s'y mettent, quoi.
Et Romaine et Conti en Bourgogne, Zinnenbrech, Josmeyer en Alsace, Chapoutier en Vallée du Rhône, par exemple, c'est pas les moindres. Le site, c'est villagemagazine.fr, c'est le dernier numéro d'automne, en remerciant nos confrères de France Bleu Normandie, Caen, qui nous ont mis en relation directement avec vous. À très vite, Sylvie. Merci.
À bientôt, Philippe.
Je rappelle que la semaine prochaine, nous serons à nouveau bretons, passant par le Finistère avant le Morbihan, et puis ensuite, changement de cap avec le Tarn, l'Aveyron, le Tarn et Garonne, je le dis régulièrement pour vos messages. N'hésitez pas à nous écrire, en particulier de ces trois départements, sur les initiatives innombrables qui émergent des territoires.